l'économie politique dans ces années 1830, 1820, 1850 joue un rôle extrêmement important, occupe une place fondamentale dans les formations discursives. Alors, je reviendrai sur quelques précautions méthodologiques. Je ne vais pas beaucoup parler, voire pas du tout parler d'argent. Pour une fois, ça changera, Eric. Mais vraiment, je vais essayer de me tenir sur la ligne de ce qu'est cette science nouvelle. Alors, comme l'économie politique, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas tous toujours exactement. Je me suis permis de vous faire un petit rappel de ce qu'est l'économie politique depuis la publication en 1615, ouvrage fondateur par Montchrétien de l'économie politique, jusqu'à, bien évidemment, avec Smith, l'acte fondateur et de la théorie des sentiments moraux et des recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations qu'on connaît sous le terme richesse des nations. Une très importante traduction a été donnée en France, c'était pas la première, en 1802. Jérémy Bentham produit son « Défense de l'usure », entre autres, en 87. Jean-Baptiste Say, premier grand économiste français libéral, on parlera des physiocrates qui interviennent au 18e, publie son traité d'économie politique en 1803, réédité à maintes reprises. En 1820, il obtient une chaire d'économie. C'est la première au CNAM, c'est important, enfin, au Conservatoire national des arts et métiers. C'est important parce que ça veut dire que l'économie est une science pratique. Et je cite ensuite Sismondi, qui est un ami de Balzac. C'est le seul économiste dans la galaxie de Balzac, on y reviendra. Je cite le dictionnaire de Ganil, sur lequel je vais revenir tout de suite, en 1826, qui est une des toutes premières œuvres de vulgarisation, et les contes sur l'économie politique de Martineau, qui sont des espèces d'historiettes, de contes illustratifs pour raconter l'économie politique aux enfants. C'est un ouvrage qui connaît un succès énorme en Angleterre et en France, qui est publié chez Gosselin, donc... Tout ça nous ramène dans une galaxie très balzacienne. Un compte-rendu des contes moraux est publié dans le même opuscule, la même revue qu'un compte-rendu de La peau de chagrin. Alors, vous voyez où je veux en venir. Est-ce que Balzac a lu tout cela? On n'en a aucune trace ou très peu. Alors, je vais... essayer de vous entraîner dans une enquête autour de ça. En revanche, il y a beaucoup d'indices qui nous permettent de penser que Balzac a baigné dans ce bain épistémologique ou épistémique de l'économie politique. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas pu ne pas entrer en contact avec le discours économique qui sature l'époque et la littérature, et les revues, y compris la chronique de Paris, etc. Alors, l'économie politique est une science naissante. Elle occupe pourtant une science fondamentale et elle organise un changement très important des catégories avec lesquelles on analyse le monde. Surgissent des notions nouvelles, le travail, la production. Et évidemment, on a parlé de Foucault durant ces derniers jours. Foucault explique dans Les mots et les choses que l'économie abandonne la notion d'échange pour considérer la production avec le nouveau rôle donné au travail, en faisant apparaître, là encore, je cite, d'un côté de nouveaux objets connaissables, comme le capital, et prescrivant de l'autre de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes, comme l'analyse des formes de production. Émerge un nouveau concept aussi d'homo economicus qui, si le syntagme n'existe ou reste rare, en tout cas la réalité à laquelle il renvoie est évidemment très, très courante. Alors, deux précautions liminaires avant de commencer. Je vais donc parler non pas des choses économiques, économie avec un Y comme disent les Anglais, mais des economics, à savoir la science économie politique, qu'on peut résumer comme la science de la production des richesses, de leur répartition et de la circulation. Tout ça, ça nous amène déjà sur des terres très balzaciennes, encore une fois. Alors, je vais assez peu parler de la manière dont... La comédie humaine raconte des histoires économiques, l'omniprésence des prix, la version économiciste du monde, la réflexion sur l'innovation entrepreneuriale, Birotteau, une théorie de la monnaie et du crédit qui est bien présente chez Balzac, une réflexion sur la circulation des richesses, tout ça, je vais assez peu en parler. je vais me situer sur le terrain épistémologique. En affrontant cette bizarrerie que Balzac n'est pas un écrivain économiste. Il l'est évidemment beaucoup moins que Stendhal, qui lit, cite les économistes libéraux, même Flaubert, qui lit Bastiat avec beaucoup d'intérêt et en fait part dans ses différents ouvrages, aussi bien la correspondance que le fameux Bouvard et Pécuchet. Tout ce qu'on peut dire de Balzac est qu'il n'est pas libéral, ça on sera d'accord là-dessus, à une époque où la science économique et ce qu'on appelle l'économie politique sont essentiellement libérales. L'économie politique de gauche est en train d'apparaître, arrivera avec Proudhon quelques années après, finalement Marx, mais l'économie politique, elle est libérale et on peut confondre les deux syntagmes. Alors, je vais me poser quelques questions et je vais essayer de me tenir au délai. D'une part, première question pour entrer dans le sujet, jusqu'à quel point la critique du libéralisme économique passe-t-elle ou implique-t-elle une remise en cause de l'économie politique ? Deuxièmement, quels sont les quelques éléments de la critique balzacienne de l'économie politique ? J'essaierai, puisque là aussi ça rejoint des discussions qu'on a eues, de définir ce que pourrait être une économie politique romantique, qui est pas une invention de ma part, qui est définie par des auteurs, y compris économistes. Et enfin, parce que c'est quand même quelque chose autour duquel nous tournons beaucoup, m'interroger sur les rôles et statuts de l'économie politique dans l'économie des savoirs balzacien, et surtout se demander quelle opérationnalité Balzac peut confier au savoir, de manière générale, et au savoir économique en particulier. Donc, premièrement, les manifestations de l'économie politique dans la comédie humaine. Alors, c'est peu de dire que Balzac ne révère pas l'économie politique, celle qu'il appelle encore en 1850, dans L'Hôpital et le Peuple, son Altesse impériale, l'économie politique. Bon. Donc, ça existe, et il en parle. Et on va trouver tout au long de la comédie humaine des références ironiques, j'emploie le terme de manière moqueuse, railleuse, à l'économie politique. Ça commence dès la physiologie du mariage, puisque l'auteur nous propose de, je cite, « jeter un rapide coup d'œil sur l'action du lit conjugal et sur le rôle qu'il joue dans l'économie politique de la vie humaine ». Bien. C'est beaucoup moins potage que ça n'en a l'air, d'ailleurs. Dans le contrat de mariage, au plus fort de la négociation matrimoniale, le jeune notaire interrompt le vieux qui s'apprêtait, Solonet, à commenter la nouvelle sociale, donne sociale. Nous n'avons pas un cours d'économie politique à faire, mais un contrat de mariage, etc., etc. Dans Eugénie Grandet, un morceau de bravoure au début du roman, lorsque le président du tribunal Bonfons tente d'expliquer à Grandet les théories de Jérémy Bentham. Alors je commence déjà à sauter la moitié de mes citations, mais c'est pas grave. Alors c'est un très long passage parce que Grandet bégaye, vous le savez, et va faire causer ce pauvre président du tribunal Bonfons, qui se croit d'ailleurs au tribunal à un moment donné dans sa péroraison. Bien. Ces Anglais ont quelquefois du bon sens, nous dit Grandet, à propos des théories de l'usure de Bentham, dont 1787. Donc, je reviendrai sur ces mises en situation du discours économique, mais on est là, clairement, dans un processus où l'économie est, la théorie économique est raillée. On le verra, par-delà la raillerie, renvoyée à son inefficacité. Ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir. Et puis, je reviendrai également sur une autre scène dans Le curé de village où Grosse Tête se lance dans un exposé très savant, d'ailleurs qui est un décalque des théories de Jean-Baptiste C. Personne ne l'écoute. Bon, bref. Je passe pas trop de temps là-dessus pour essayer de livrer quelques éléments de théorie économique balzacienne. Je me garderai bien de dresser un tableau exhaustif des éléments constitutifs de cette doctrine. D'une part, ce serait sans doute fastidieux. Et d'autre part, l'exercice est rendu hasardeux par les nombreuses contradictions, voire les trous dans la raquette que comporte l'économie politique balzacienne. Alors on sait tous qu'il y a cette grande absence ou quasi-absence, Barbéry s'en a beaucoup parlé, du prolétariat, de l'industrie et par-delà du salariat. Hein, le salariat en tant que nouveauté absolue de l'époque qui consiste à mettre sa force de travail au service d'un patron contre salaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne complètement l'économie. Donc tout ça est absent. Du salariat, on a quelques vues sommaires dans la lettre sur les ouvriers du 25 septembre 1840. Quant à la question des salaires, des heures de travail, cela ne signifie rien politiquement parlant. Politiquement parlant, on y reviendra. Cette ardente question tombe devant le défaut d'ouvrage. Les maîtres s'abstenant de faire ont bientôt raison des ouvriers. La main-d'œuvre a ses variations de hausse et de baisse. Donc, on n'a pas à faire un gauchiste, on le savait. De manière générale, avec une constance qui relie le jeune Balzac au Balzac de la fin, on a des positions, Balzac candidat hein, politique, des positions réactionnaires avec. Entre autres positions, la déploration de ce que la grande propriété est condamnée par les lois sur la succession, etc. Deuxième point fondamental de la critique du libéralisme, c'est la critique du primat de l'individu, on connaît ça parfaitement. Balzac ne voit en lui ce fameux individu rationnel, l'homo economicus, Balzac ne voit en lui qu'un égoïste auquel auraient été inoculés les germes de l'économie politique, on est dans Génie Grandet, et Benassi, avec ses citations, je vais vous donner des citations très très célèbres, maintenant pour étayer la société, nous n'avons d'autre soutien que l'égoïsme, les individus croient en eux, les sentiments d'un peuple sont ses croyances, au lieu d'avoir des croyances, nous avons des intérêts. Bon. On retrouve ici, avec ce refus de réduire l'individu à des intérêts économiques, un fond rousseauiste extrêmement important hein, dans la pensée balzacienne, qui va, de fait, au rebours de l'homo economicus de Smith, dont on sait qu'il est animé par son self-interest. Hein, Mais en même temps, il faut faire avec les paradoxes ou contradictions d'un auteur qui, d'un côté, récuse les thèses sur le commerce et la liberté d'entreprendre des libéraux, mais va s'élever contre le protectionnisme, hein, tant dans ses libelles politiques que dans les déclarations de Benassi. La vraie politique d'un pays doit tendre à l'affranchir de toute tribu envers l'étranger, mais sans secours honteux, des douanes et des prohibitions. L'industrie ne peut être sauvée que par elle-même, la concurrence est sa vie, etc. Cette dernière formule est évidemment importante. Parce qu'à l'époque, il y a une sorte de magie de la concurrence. Hein. On va revenir sur la main invisible, mais la concurrence est censée assurer une espèce de régulation automatique. Et Benassi, finalement, il est assez d'accord avec ça, et on peut penser que Balzac aussi promeut cette idée de concurrence. Je vous ai mis une citation de Frédéric Bastiat qui, évoquant la concurrence, nous dit « Il n'en est pas de plus féconde en harmonie sociale, de plus bienfaisante dans ses résultats généraux. Il n'en est pas qui atteste d'une manière plus éclatante l'incommensurable supériorité des desseins de Dieu sur les vaines et impuissantes combinaisons des hommes. » Je ne vais pas vous assommer de citations économiques, mais on voit aussi le style. C'est une économie extrêmement littéraire hein, qui se déploie à cette époque-là et qui, effectivement, déploie des représentations d'économie comme forme agissante. Et c'est évidemment très important pour penser le rapport de Balzac à l'économie. Et cette même acceptation pragmatique de la concurrence, on la retrouve dans la lettre sur le travail. Comme je sais que je vais être trop long, je m'abstiens de vous donner la citation. Et si on essaye de faire, de retracer la généalogie des influences économiques de Balzac, ici, il faut penser aux physiocrates, grand mouvement économique de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Quesnay, Turgot, qui ont effectivement été un des mouvements précurseurs du libéralisme au XIXe siècle. Thèse physiologiste, qu'on va retrouver chez Balzac avec le primat de la propriété et de la production agricole, le primat de la circulation. Alors cette question de la circulation, elle obsède le XVIIIe siècle économique, et puis encore le XIXe, il faut dire qu'elle reprend un topos dont on sait qu'il est extrêmement important, l'argent est le sang du corps social, c'est une métaphore qu'on retrouve chez Harvey au XVIIe siècle, et qui participe puissamment de l'imaginaire d'époque. Et il joue un rôle essentiel chez les Saint-Simoniens, qui, on le sait, à l'égard desquels Balzac entretient un rapport très ambigu. Alors il y a des querelles balzaciennes là-dessus. Moi, il me semble qu'on ne peut pas ne pas penser Balzac Saint-Simonien quand on lit Le curé de village, Le médecin de campagne, Illus Gaudissart. Même s'il se moque des globules, globistes, globards, il y a très évidemment quelque chose de Saint-Simonien. Et je pense d'ailleurs que Balzac rejoint absolument l'économie saint-simonienne se détache de la morale saint-simonienne, sur les fondements de la morale de Françoise. Voilà pour un premier balayage. Si on en vient aux objections de fond que Balzac adresse au libéralisme, par-delà ces prises d'opposition économiques un peu disparates, il me semble qu'il y a trois objets majeurs sur lesquels Balzac va à l'encontre de l'économie politique de son époque. D'une part, la question des intérêts et des passions. J'ai réinsisté là-dessus parce que ça a été évoqué hier, on a parlé avec Boris. La question de l'intérêt, évidemment, est centrale chez Balzac, qui considère cette assomption, voire ce déchaînement des intérêts, comme le marqueur de la modernité politique et économique. Il partage avec Hobbes l'idée que la poursuite des intérêts par l'individu, et non plus ses passions, constitue une mutation historique qui illustre les progrès de la rationalité, mais il se détache bien évidemment de la vulgate libérale, telle que poursuivie par Mandeville, Montesquieu, selon laquelle les intérêts peuvent dompter, voire éradiquer les passions. Il y a toute une théorie qu'Hirschman a développée à propos de la pensée du XVIIIe siècle, Albert Hirschman, comme quoi c'est le doux commerce de Montesquieu, le fait de poursuivre son intérêt va réguler, voire éradiquer les passions des individus. Bien sûr, Balzac est aux antipodes de cette analyse, et l'intégralité de la comédie humaine est là pour montrer que les intérêts sont sans cesse perturbés par les passions, que les passions viennent fournir aux intérêts leur carburant, voire parfois que les passions prédominent, quitte à s'exercer contre les intérêts des individus. Alors, la formulation est un peu sèche, il faudrait exemplifier, mais en même temps, on a tous à l'esprit toutes ces situations-là de conflit et d'enveniment réciproque de l'intérêt et des passions. Ce faisant, Balzac ne se contente pas de critiquer l'optimisme des penseurs des Lumières, il récuse plus fondamentalement la manière dont l'économie politique, en ignorant volontairement, de manière volontariste, l'ordre des passions et en promouvant l'ordre purement rationnel des intérêts, soumet l'ordre économique à une mécanique nécessaire, ce qui revient à naturaliser l'économie. Et ça, c'est quelque chose contre lequel Balzac va profondément s'élever, et cela amène le second point profond de désaccord autour des questions d'harmonie. Bastiat, 48, harmonie économique. Ce tropisme naturaliste, qui est déjà puissamment à l'œuvre chez les physiocrates, est critiqué au siècle précédent par Mably dans ses doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Balzac a lu Mably. Et ce qu'on critique, c'est la manière dont le libéralisme est à l'origine d'une forme, ou se fonde sur une forme de métathéorie qui veut que le libre jeu des intérêts engendre l'harmonie. Alors, c'est plus simplement la question d'éradiquer les passions. Hein. C'est des choses qu'on a dites hier, plus ou moins, ou avant-hier, Pierre a fait référence à Durkheim. Mais en fait, dès Smith, cette question-là est posée. Le fait que je poursuive mon intérêt égoïste par une providentielle main invisible, alors ça c'est la formulation de Smith, qui est très contestable et très compliquée en fait, hein, va fabriquer de l'harmonie naturelle. C'est la fameuse citation de Smith, « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, sentiment, hein, mais à leur égoïsme. » Et tout ça fonctionne. Alors, il y a des lectures très rivales, concurrentielles de Smith. Est-ce que Smith est un déiste caché? Qu'est-ce que ce providentialisme-là? En tout cas, il y a bien dans l'économie. Et là, on ne parle pas d'une économie fantaisiste du XVIIIe siècle. Hein, on parle de l'économie contemporaine et des fondements de l'économie libérale, néolibérale. Cette croyance que le marché s'autorécule, que le marché est doté d'une, comme dit Dupuis, Jean-Pierre Dupuis, d'une autotranscendance. Alors évidemment, toutes ces questions-là, ça c'est discuté hein, à l'époque de Balzac, et tout ça ne peut pas plaire à Balzac, puisque ça contrevient radicalement à tout ce à quoi il peut croire et s'attacher. Alors je me suis amusé, et c'était en lisant un article d'Eric, à mettre à côté la citation d'Adam Smith, la citation de la rabouilleuse. Je ne suis pas très sûr de mon coup, à vrai dire. Hein. Mais que voulez-vous ? L'épicier est entraîné vers son commerce par une force attractive, égale à la force de répulsion qui en éloigne les artistes. On n'a pas assez étudié les forces sociales qui constituent les diverses vocations. Il serait curieux de savoir ce qui détermine un homme à se faire papetier plutôt que boulanger, du moment où les fils ne se succèdent pas forcément au métier de leur père. Bon. Alors, évidemment, j'ai des lunettes un peu déformées, mais j'ai du mal à ne pas me dire qu'il y a une forme de réponse à Smith. On n'a pas assez étudié les forces sociales qui constituent les diverses... Ben, si, c'est Smith qui l'a dit. Hein. Et le fait d'en passer par la profession comme ça, de la même manière que Smith, bon, ça, on va dire que ce sont des signaux faibles, comme on dit aujourd'hui, mais quand même, ça donne la puce à l'oreille. Ça met la puce à l'oreille. On l'a compris, toutes ces croyances, postulats libéraux, s'opposent au credo de Balzac et qui va tout à fait s'opposer à cette vision de l'intérêt. Le médecin de campagne, Benassi, si chacun ne pense qu'à soi et n'a de foi qu'en lui-même, comment voulez-vous rencontrer beaucoup de courage civil quand la condition de cette vertu consiste dans le renoncement à soi-même ? Au rebours de la logique des aveugles des intérêts individuels, Balzac en appelle à la volonté ferme avec laquelle un homme doit se détacher de tout intérêt personnel pour se vouer à une pensée sociale. C'est toujours Benassi qui parle. Et parce que cette régulation harmonieuse mécanique n'existe pas, il faut donc toujours, selon Benassi, je cite, « imprimer aux idées mauvaises ou bonnes de ces masses une direction utile qui les fasse concorder au bien général. Il n'y a pas de régulation automatique des individus. Il faut un chef. Alors, si cette régulation harmonieuse mécanique n'existe pas, Balzac ne peut pas plus croire, on le déduit aisément, à l'existence de ce que Smith appelle l'équilibre naturel. Et chacun de ces deux mots est évidemment important. Équilibre que se systématisera Walras et toute l'économie néoclassique. Pour Smith, on l'a un petit peu dit, les forces du marché, c'est-à-dire la concurrence, représente le mécanisme rendant les économies décentralisées. Alors là, c'est le jargon économique, mais ça veut dire que, au lieu d'avoir une décision unifiée du centre, tout ça se fait par micro-accords, et tous ces micro-accords génèrent de la concorde sociale qui permet d'atteindre une situation d'équilibre entre le prix et le marché, hein, l'offre et la demande. En vrai, c'est assez fascinant hein, pour que le système de l'offre et la demande, mais bon, on pourra y revenir. Cet équilibre automatique, Balzac n'y croit pas, et quelques rares économistes à l'époque se permettent de prendre position contre lui. C'est le cas notamment de Sismondi. Alors, qui est un libéral, hein, qui se revendique de Smith et qui sera considéré par Karl Marx comme le chef du, je cite, socialisme petit bourgeois, ce qui ne doit pas être un compliment. Et cette économiste genevoise d'obédience libérale, donc, estime qu'il est des cas où le marché n'est pas naturellement à l'équilibre. Alors je vais essayer d'être un peu pas trop techno et qu'il ait des situations où il faut faire tourner la machine économique en faisant avec le déséquilibre. Vous voyez venir, ça m'intéresse. Et ça m'intéresse. Alors Sismondi, il m'intéresse d'autant plus que c'est le seul économiste dont nous soyons sûrs et certains, parce que Balzac en parle dans sa correspondance, qu'il ait rencontré Balzac. Balzac a été accueilli avec Madame Hanska à Genève chez Sismondi. Alors, Balzac, c'est sûr, a lu les écrits historiques de Sismondi, il ne parle pas de ses écrits économiques. Bon. Mais en même temps, au moment où il voit Sismondi, il est vraiment dans la rédaction des nouveaux principes économiques. Donc, là aussi, hein, dans notre faisceau d'indices, on voit quand même qu'il y a un bain dans lequel trempe, si vous me permettez l'expression, Balzac. Donc, une citation sur laquelle on ne s'arrêtera pas de Sismondi, hein, lorsque la coordination marchande concurrentielle ne fonctionne pas, notamment dans le domaine politique de la réalisation institutionnelle d'une société, l'harmonisation des intérêts et des individus relève du législateur et des représentants élus. Alors voilà un libéral qui nous ramène sur des terrains balzaciens et qui répond à la théorie, qui correspond à la théorie interventionniste de Balzac, interventionnisme qui est développé dans tous les traité, hein, les lettres de Balzac, et qu'on retrouve bien sûr théorisé dans le curé de village et le médecin de campagne, sur fond saint-simonien, on l'a dit. Mais dans ces deux romans, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas simplement un saint-simonisme d'ingénieur qui trace des canaux et qui... y a ça, mais pas seulement. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont Benassi, loin de faire comme si les intérêts n'existaient pas, d'être dans une forme de déni politique, va au contraire théoriser et montrer que sa mission pragmatique est de jouer, de faire avec les intérêts. Le grand homme qui nous sauvera du naufrage vers lequel nous courons se servira sans doute de l'individualisme. La mission de l'administration ne consiste pas à imposer aux masses des idées, hein, mais à imprimer aux idées mauvaises ou bonnes une direction utile. Pour civiliser ou créer des productions, il faut faire comprendre aux masses en quoi l'intérêt particulier s'accorde avec des intérêts nationaux. Et là, on voit qu'il y a vraiment un discours qui reprend les termes de la vulgate économique, mais qui les retourne pour proposer un modèle qu'on pourrait dire alternatif. Donc, se dégage ici une conception balzacienne du rôle économique de l'État vis-à-vis de l'économie, avec cette idée proposée par Benassi, parlant de l'économie, je cite, « De telles choses sont trop simples pour qu'on en compose une science, pan sur le bec, elles n'ont rien d'éclatant ni de théorique, elles ont le malheur d'être tout bêtement utiles. » Donc, on voit comment Balzac cantonne l'économie dans un rôle ancillaire, qui est peut-être intéressant de rappeler aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat. Cette triple critique, hein, des fondements de l'économie, l'équilibre, les intérêts et les passions et l'harmonie, au fond, se dégage une quatrième critique fondamentale que Balzac adresse à l'économie politique. Et ça, il le partage avec Sismondi dans cette idée que l'économie doit se tenir au service du politique. Ou de la politique, sans chercher à devenir une suprascience. Et ça, c'est un point de désaccord très profond avec les libéraux, parce que l'économie politique va revendiquer son autonomie, et ce n'est pas une coterie de scientifiques ou de disciplines émergentes. Hein. Cette question de l'autonomie, elle est consubstantielle elle est consubstantielle à l'économie politique. Parce que il s'agit de se détacher et des sciences morales et de la science politique, de la même manière qu'il s'est agi pour les physiocrates de soustraire l'économie, la décision économique, au pouvoir absolutiste de la monarchie. Donc ce programme là et l'autonomie, elle s'impose parce que l'économie est une science naturelle qui s'applique et déploie des principes newtoniens, une mécanique newtonienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que il faut pas contrevenir, il ne faut pas intervenir dans l'économie, sinon on dérègle le mouvement des astres et la belle harmonie économique. Et vous voyez que ces choses-là sont toujours, bien entendu, dans les représentations et les conceptions de l'économie contemporaine. Et cette autonomie de la science, ben, c'est quelque chose que Polanyi critiquera quand il parlera de désencastrement hein, de l'économie. Ce refus balzacien, il contrevient effectivement à un discours qui se développe de plus en plus. Je suis passé trop vite dans les premières diapos sur des pétitions hein, des économistes qui affirment non seulement que l'économie doit être une science, une suprascience, et d'autre part que l'économie est suprascience parce qu'elle touche à l'universel. Et je vous avais juste proposé une petite citation de Montchrétien, donc on est dans le traité fondateur de l'économie politique, qui est intéressante parce que, dès le départ, on peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de Xénophon, dit Montchrétien, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie principale du tout et que la science d'acquérir des biens, qu'il nomme ainsi, est commune aux républiques aussi bien qu'aux familles. Donc, dès le départ, il s'agit de prendre opposition avec cette idée que l'économie serait soumise à la politique. Alors évidemment, quand on a lu sur Marie de Médicis ou le catéchisme social, on sait que Balzac, à l'inverse, hein, demande à l'économie de se soumettre aux principes politiques. Alors, cette critique de l'économie, elle est théoriquement exposée en mains endroits de la Comédie humaine, pour nous reposer un petit peu, juste, elle est proposée de manière plus drôle dans Le curé de village, ce passage auquel j'ai fait référence en début d'exposé. Il faut que je me dépêche. Donc, je ne vais pas le commenter. Mais, grosse tête, effectivement, se lance dans un exposé qui est très sérieux, économiquement très robuste. C'est la théorie quantitative des prix de Say. Bon, très bien. Mais, finalement, son exposé tombe complètement à plat. Hein. On se rappelle, c'est ce moment où les différents savoirs commentent la question de l'héritage, etc. Et au fond, dans cet exposé, je coupe, ce qui n'est critiqué, c'est pas le fond, parce que tout le monde est d'accord avec la théorie de la circulation, mais c'est la posture hein, de l'économiste. Et là, il y a bien une forme... Alors, d'ironisation, comme si le discours économique était pris en mention à cet endroit-là, le laïus du sévère économiste, et je repense à ce que disait Eric sur le discours musical à propos de Mahomet, étant présenté comme un discours terroriste. Là, je crois que c'est exactement la même mécanique. Et c'est pas le ridicule de grosses têtes qui expose, c'est tout à fait autre chose. Et c'est beaucoup plus profond et plus attaquant. Le discours de Bonfons est en apesanteur, comme s'il s'agissait de le retirer de l'ordre des savoirs crédibles et légitimes. Et ça prouve, au passage, que Balzac connaissait très bien l'économie. Et avec les mêmes... Alors moi, j'ai pas pu avoir à réunir les preuves que tu as réunies sur la musique, mais évidemment, il peut pas écrire ça sans avoir une. Alors, je galope un petit peu pour aller sur mon portrait, troisièmement, de Balzac en économiste romantique. Cette notion d'économie romantique, elle est fondée, il y a un ouvrage de Richard Bronck, sur l'économiste romantique qui n'a pas été traduit, qui est très, très intéressant. Joseph Vogel, qui est un philosophe allemand contemporain, a théorisé là-dessus. Donc, on va essayer de voir comment cela fonctionne avec Balzac, je récapitule. Balzac refuse le discours de désencastrement ou d'autonomisation de l'économie, et avec lui, ses principes fondamentaux, on l'a vu, ses principes qui instaurent un équilibre naturel et une régulation harmonieuse des intérêts individuels. Il postule que l'économie vit toujours sur le mode du déséquilibre, car elle est fondée sur le manque et la rareté. Alors, on pourrait m'objecter que tout ça pourrait être élargi à la théorie économique libérale qui repose sur les arbitrages que les individus font entre peine et plaisir. Sauf que là où l'arbitrage de l'homo economicus est toujours rationnel, le sujet romantique, lui, subit, retour des passions, cette tenaille du manque comme une pulsion jamais assouvie, un mouvement jamais stabilisé. D'un côté, ça nous renvoie évidemment à des choses qu'on connaît très bien, qui est l'énergétique balzacienne, Madeleine Ambrière, etc. De l'autre, ça fait penser à la manière dont les économistes hétérodoxes aujourd'hui reprennent, ça c'est vraiment passionnant, les thèses de René Girard sur le mimétisme pour les appliquer à l'économie. Et montrer que justement, il n'y a pas que de la rationalité, mais avec la théorie du triangle, vous connaissez. Dans ces conditions, l'économie romantique, elle s'énonce en fonction d'une théorie de la libido qui renvoie au désir infini d'appropriation. Conséquemment, par rapport au 18e, on passe d'une théorie du contrat à une théorie des forces divergentes, ce qui implique la notion de conflit. Et le fait que, chez un Balzac qui, je cite Max Milner, considère la société comme un organisme vivant travaillé par des forces incontrôlables, l'économie se donne toujours sur le mode du conflit. Les guerres que se livrent du Tillet, consorts, les guerres bancaires, les rivalités, hein, qui est une sous-catégorie hein, dans l'art de la comédie humaine, vieille fille, cabinet des antiques, le cousin Ponce. Alors, je m'arrêterai sur le cousin Ponce parce qu'il me pose beaucoup de problèmes. Et puis, si on avait le temps, on ferait un sort à toutes les situations où l'information devient l'objet à partir duquel s'organise la guerre et le pouvoir économique. Ça, c'est pas anodin parce que la théorie économique, elle présuppose parmi ses postulats que tous les sujets sont en possession d'une information parfaite. Et dès qu'il y a asymétrie informationnelle, je détiens un avantage qu'Eric n'a pas, donc je vais acheter des actions, ou l'inverse d'ailleurs. Et dès qu'il y a asymétrie informationnelle, effectivement, le marché est déséquilibré. Et donc, patatras, tout s'écroule. Et alors, on a quantité de romans au 19e siècle, chez Balzac et ailleurs, où cette asymétrie informationnelle est au centre. Dumas, Lucien Leven, enfin Dumas, pardon, le comte de Monte Cristo, Lucien Leven avec le télégraphe, la tour du télégraphe, juste je mange l'auteur, qui est un roman populaire qui se passe à Bordeaux d'ailleurs, mais ça va me revenir. Il y a énormément de choses comme ça qui vont chercher et attaquer la logique libérale, là, mais on n'a pas le temps. Alors, il ne faut pas déduire que cette économie du conflit, elle est chaotique. Hein. Elle est conçue sur le patron de la philosophie de la nature de Schelling. Et à ce patron-là, le tout économique est pensé comme un organisme, un tout dynamique, qui échappe précisément au mécanisme newtonien. C'est ça qui est important. Et là où la naturata pouvait faire l'objet d'une approche mécanique, la natura naturans, elle ne peut être comprise que comme un grand organisme. Je crois que j'ai complètement perdu mon diaporama, mais ce n'est pas grave. Je vous verrai dans la version écrite notamment une citation de Bronck qui est intéressante à cet endroit-là. Alors, implication de cette dynamique tenant et aboutissant. Là où un équilibre newtonien implique une égalité formelle entre les individus, sinon ça ne marche pas, l'économie romantique récuse, elle, cette égalité qu'elle juge mortifère. Hein. Et on trouve chez Balzac maints exemples de cette condamnation d'une égalité toxique. On sait quel scandale représente le fait qu'un épicier puisse devenir pair de France. Hein. Mais cette dangereuse égalité est un facteur... Là, on est en inverse absolu avec la théorie libérale, puisque cette égalité, elle est un facteur de disharmonie. De chaos. Bon. Pour Balzac, le corps économique exige, comme en physique ou en biologie, des différences et des polarités opposées qui permettent la production et la circulation des biens. De ce point de vue, on peut rejoindre les analyses de Bernard Guyon, qui estime que le Balzac du catéchisme social établit une théorie, deuxième citation, où la politique, mais on pourrait tout aussi bien dire l'économie politique, offre le même phénomène que la nature, le combat de deux forces qui produit la vie, les lois de l'ordre moral et celles de l'ordre physique sont similaires, etc. Dans un autre registre théorique, en revenant aux œuvres de fiction, on peut s'appuyer sur le bel article que Françoise Gaillard écrivit sur la cinétique aberrante du corps social, où elle montre que la métaphore du corps permet la différenciation politico-sociale des rôles et des positions comme une réalité naturelle. Il y a dans un corps des membres inférieurs comme il y a des membres supérieurs. C'est un constat anatomique et c'est une nécessité fonctionnelle. Alors peut-être que, si je peux me permettre, Françoise, il faut aller peut-être un peu plus loin dans l'analyse des ouvertures de Ferragus et la fille aux yeux d'or, au bout de la logique, ce qui permettrait peut-être de dépasser l'apparente contradiction entre les différentes métaphores corps, monstre, machine. Vous avez la citation à l'écran. Cette hybridité métaphorique, il faut la prendre à l'aune du contexte épistémologique de l'époque et donc réintégrer l'économie politique, puisque la métaphore de la machine, c'est le tribut que Balzac paye à l'économie politique. Ça existe quand même. Et à côté de ça, il y a le corps et le monstre, le corps monstrueux, qui est justement cette disharmonie qui crée de l'équilibre et de l'harmonie sociale. Alors là, je vais être obligé d'aller beaucoup plus vite, mais c'est des choses que vous connaissez, parce que si j'avais eu le temps, j'aurais fait référence, j'aurais continué à cheminer avec Françoise sur le prologue de La fille aux yeux d'or, dont on a souligné qu'on n'y comprenait rien, qu'on ne comprenait pas comment ça se raccrochait au texte. Bon, Patrice Bobeau est un économiste... Oui. Et ça, c'est pas vrai. Alors, Patrice Bobeau, qui est économiste, a montré comment La fille aux yeux d'or était précisément, le prologue constituait un modèle économique, au sens où les économistes le pensent, avec et un modèle qui est fondé sur le déséquilibre et la manière dont les excès des uns sont intégrés aux besoins des autres. Alors, je passe trop vite, mais ce qui est sûr, c'est que ce prologue n'est pas du tout détaché du texte, puisque on a, si je simplifie outrageusement, la théorie et la pratique, hein, grosso modo. Mais c'est drôle comment, parce que ça avait été beaucoup dit que c'était pas, enfin que c'était. Bon, bref, on a la théorie et la pratique. Ce qui est, et si on avait le temps là aussi, on pourrait prolonger en se demandant comment Balzac insère la théorie dans son œuvre. Et Eric l'a écrit, il me semble que la théorie est beaucoup plus profondément à l'œuvre dans la fiction que dans... Enfin bon, ça c'est une sorte de banalité. Alors, il faudrait, si on avait le temps... non, mais c'est au bout de trois jours de discussion, grâce à vous, je t'ai... si on avait le temps, j'aurais dit que ça 25 fois, il faudrait voir comment cette cybernétique-là se déploie dans la comédie humaine. Nombre de récits, alors ça revient à soulever les questions d'Intentio d'hier, mais... on a le discours balzacien qui dit libéralisme c'est moche, l'intérêt c'est terrible, etc. Et puis, Nolens Volens quand même, le récit, au bout du compte, il donne raison au libéralisme. Il donne raison à la loi de l'intérêt. Nucingen, qui n'a jamais réussi à faire de mauvaises affaires. Et pourtant, c'est un escroc. Et on a plein d'exemples comme ça. J'en viens presque pour finir à ce caillou dans la chaussure que représente pour moi le cousin Ponce. Le cousin Ponce, avec la lutte autour de la collection, où la régulation semble, là, effectivement, se faire de manière automatique. On a un déchaînement d'appétit et d'intérêt. Il n'y a pas d'administrateur avec un A majuscule, comme dans... Et pourtant, ça tourne. Et pourtant, ça marche. Et pourtant, la collection n'est pas démembrée, hein, malgré tous ses appétits. Et là, moi, je suis très embêté avec le cousin Ponce. Alors, le modèle du cousin Ponce, il ne contrevient pas au modèle de l'économie romantique et de l'équilibre qui naît de la disharmonie. En revanche, là où il vient heurter une bonne partie de ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a plus de principe politique dans le Cousin Ponce. Alors, est-ce que c'est un apax, finalement, en symétrie avec l'envers de l'histoire contemporaine? Est-ce que c'est une évolution fondamentale de la pensée politique de Balzac? Je laisse ça en discussion et ouvert. Je conclue. Donc, une économie balzacienne dont on peut déterminer les concours, pas de croyance dans la région des intérêts, partisan de l'intervention de l'État, on dirait aujourd'hui que c'est un ordo-libéral, en fait, hein, Balzac, et une croyance partagée avec Sismondi que l'économie peut fonctionner sur le déséquilibre. C'est une économie qui n'est pas pro-capitaliste, mais comme le dit Vogel, elle n'est pas anticapitaliste, mais paracapitaliste, d'une certaine manière, ce que propose Balzac. L'économie politique de Balzac est le fruit d'une tension et elle a une nouvelle donne économique, la nouvelle puissance logique de l'intérêt, tout en refusant, alors apax cousin Ponce mis à part, de subordonner le politique à l'économie et en refusant encore plus de céder aux revendications d'autonomisation de l'économie politique. En cela, Balzac est semblable à Sismondi, qui refuse que les modélisations économiques ne débouchent sur un monde imaginaire. L'expression « monde imaginaire » est de Sismondi. On doit en général se défier en économie politique des propositions absolues, tout comme des abstractions, je saute à la fin. Aussi, l'économie politique n'est-elle pas une science de calcul, mais une science morale, on y revient. Elle égare quand on croit se guider par des nombres. Elle ne mène au but que quand on apprécie les sentiments, les besoins et les passions des hommes. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas lire ces lignes-là sans penser aux réflexions actuelles à Mathiasen qui oppose economics as ethics, economics as engineering. Donc ça fait écho. Deuxièmement, il y a là une réflexion sur les statuts et rôles de la science, du savoir économique dans son opérationnalité et sa capacité à réparer, au début là, organiser, structurer, comme nous l'avons vu avec le droit, les sciences de l'homme portées par les physiologies, l'activité de décryptage, de connaissance et de systématisation n'est jamais très loin de l'action sur le réel. Et ça, cette continuité-là, on l'a mise un peu en pointillé, mais je crois qu'elle est vraiment importante pour nos journées. Troisième et dernière, et je vous laisse en paix, remarque, cette réflexion sur la relation qu'entretiennent la littérature réaliste et l'économie politique, à mon avis, elle nous pose un discours en termes de lutte de l'ordre des discours. Le fait qu'en laissant l'économie politique s'autonomiser, on la laisse fabriquer des mondes imaginaires, on appelle ça des modèles aujourd'hui, hein, des modèles économiques, l'économie politique ne devient-elle pas une sorte de concurrente du roman, dans la mesure où à son tour, elle fabriquerait des mondes possibles? Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose là, hein, dans la pensée balzacienne de l'économie politique et dans son refus, qui explique son refus de l'autonomisation aussi, ce sentiment de concurrence et de rivalité. Mais même si on ne retient pas cette idée d'une possible rivalité de l'économie et du réalisme, au fond, ces discours pour Balzac de mondes imaginaires ne sont pas tant dangereux qui rivaliseraient avec le discours littéraire, mais ils sont dangereux parce qu'ils sont porteurs d'une vision du monde qui déforme les individus. Je vous remercie.